Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, La Tempête. Dans une île de l'océan vivait un vieillard nommé Prospero et sa fille Miranda, merveille de jeunesse et de beauté. Ils étaient là les seuls représentants de l'espèce humaine, et Miranda y était venue si jeune qu'elle ne se rappelait pas avoir jamais vu d'autre visage d'homme que celui de son père. Une caverne creusée dans le roc leur servait d'habitation. Prospero l'avait divisée en plusieurs appartements, dont l'un, qu'il appelait son cabinet d'études, contenait ses livres, presque tous traitant de magie. Cette science était alors fort en faveur parmi les savants, et lui avait été très utile dans les bizarres circonstances où le malheur l'avait placée. L'île, en effet, avait été enchantée par une sorcière appelée Sycorax, morte peu de temps après qu'il y avait abordé. Grâce à ses connaissances dans l'art magique, il avait pu délivrer beaucoup de ces gentils farfadets, lutins malicieux sans être méchants, qui se font souvent les serviteurs actifs et fidèles de l'homme. La vieille Sycorax les avait emprisonnés dans des arbres parce qu'ils avaient refusé d'exécuter ses ordres cruels. Depuis leur délivrance, ils avaient obéi à Prospero comme l'eussent fait des esclaves. À leur tête se trouvait Ariel, le plus espiègle de la bande. Ce malin petit diable n'avait qu'un seul défaut, c'était de taquiner à outrance un pauvre monstre, Caliban, plus singe qu'homme, né de la vieille Sycorax. Ariel l'avait en horreur à cause de cette origine. Prospero, ayant trouvé dans les bois cet être informe, l'avait recueilli et lui avait appris à parler. Mais là s'était bornée l'éducation de son protégé, dont rien n'avait pu dompter les mauvais instincts. Aussi ne se servait-il de lui que pour les travaux les plus durs, et c'était Ariel qu'il chargeait de les lui faire exécuter. Dès que Caliban se permettait de flâner, invisible à tout autre qu'à Prospero, il fondait sur le paresseux. Parfois il lui faisait piquer une tête dans une mare, ou prenant la forme d'un singe, il l'effrayait par les plus hideuses grimaces. Puis, se changeant soudain en hérisson, il se plantait sur le chemin du malheureux Caliban, qui reculait d'horreur devant les piquants où il craignait d'ensanglanter ses pieds nus. À l'aide de ses puissants petits génies, Prospero commandait en maître au vent et au flot. Sur un signe de lui, il soulevait des tempêtes. Et un jour, qu'il s'était livré à ce passe-temps, Prospero montra à sa fille un magnifique navire aux prises avec les vagues en furie. « Ce vaisseau, lui dit-il, est plein d'êtres semblables à nous. »« Oh, mon cher père !» s'écria Miranda tout émue, « si c'est votre art qui produit cette épouvantable tourmente, je vous en supplie, ayez pitié de ces pauvres gens. Voyez, ils vont tous périr. Si cela était en mon pouvoir, j'engloutirais l'océan sous la terre plutôt que de laisser perdre un si beau navire et tant de précieuses existences. » « Ne t'effraie pas tant, ma chérie, répondit le vieillard. J'ai bien recommandé à qui de droit qu'aucun passager ne vienne à périr. Ce que j'en fais est pour ton bien. Tu ne sais ni qui tu es, ni d'où tu viens. Tout ce que tu sais de moi, c'est que je suis ton père. Tu ne connais du monde que cette triste caverne. Te rappelles-tu même quand tu y es venu? Je ne le crois pas, car tu n'avais alors que 3 ans. Je me le rappelle, cependant. Vraiment? Oui, je crois voir encore, comme dans un rêve, 4 ou 5 femmes s'empressant autour de moi pour me servir. Il y en avait bien davantage, mon enfant. Mais je m'étonne que tu t'en souviennes. Est-ce tout? Oui, père. Sache donc alors qu'il y a 12 ans, j'étais duc de Milan. Toi, tu étais princesse et mon unique héritière. Mon jeune frère, Antonio, en qui j'avais toute confiance et à qui je laissais le plus souvent le soin de gouverner, pendant que je m'ensevelissais dans mes livres, ne tarda pas à se croire duc lui-même, et sa popularité grandissant par ma faute, il me sacrifia à son ambition et réussit, avec l'aide du roi de Naples, mon ennemi, à me priver de ma couronne. Pourquoi ne nous ont-ils pas mis à mort aussitôt? Ils ne l'osèrent pas. Mon peuple nous aimait trop. Mais on nous embarqua sur un grand navire, et quand nous fûmes en pleine mer, on nous contraignit à descendre dans une chaloupe sans cordage, sans voile et sans mât. Antonio crut ainsi s'être débarrassé de nous. Heureusement, un de mes bons amis, le seigneur Gonzalo, avait pu secrètement placer dans le bateau de l'eau, des provisions, des cordages et surtout mes livres, que j'estimais plus que mon duché même. « Oh, père, comme j'ai dû vous être à charge depuis !»« Non, mon amour, tu fus, au contraire, le chérubin qui me rattacha à la vie. Ton innocent sourire me cuirassa contre le malheur. Nos provisions durèrent jusqu'à ce que nous eûmes abordé dans cette île déserte, et depuis, tout mon bonheur a été de t'instruire et de te voir si bien profiter de mes leçons. » Miranda s'était jetée au cou du vieillard et l'enlaçait tendrement de ses jolis bras. « Que le ciel vous bénisse !» s'écria l'aimable enfant. « Mais dites-moi, pourquoi avez-vous commandé à cette tempête de faire rage autour de nous ?»« Pour faire échouer sur cette île mes ennemis. Le roi de Naples et mon frère Antonio sont à bord de ce vaisseau maudit. » Miranda allait se récrier, quand soudain le vieillard la toucha de sa baguette magique et elle s'endormit profondément. Ariel venait en effet d'apparaître devant son maître pour lui rendre compte des résultats de la tempête. Et bien que les farfadets demeurassent toujours invisibles pour Miranda, Prospero ne voulait pas qu'elle entendît son père converser avec un esprit follet. « Eh bien, mon mignon lutin, dit-il à Ariel, comment t'es-tu tiré de la tâche que je t'avais confiée ?» Le sylphe fit une pittoresque description de la tourmente et de la terreur des passagers. Ferdinand, le fils du roi de Naples, avait été le premier à sauter à la mer. Son père le croyait englouti par les vagues et perdu à tout jamais. « Il n'en est pas moins sain et sauf, » continua le malin narrateur. « En ce moment, il est assis sur un rocher, sur une pointe de l'île, les bras tristement croisés sur la poitrine et se lamentant sur la mort de son père qu'il croit noyé. Pas un cheveu de sa tête n'a été endommagé, et ses vêtements princiers, bien que ruisselants d'eau salée, n'en sont ni moins brillants, ni moins frais. « Bravo, mon petit Ariel, je reconnais là ta délicatesse. Amène-le ici. Il faut que ma fille le voie. Et que font mon frère et le roi de Naples ? Je les ai laissés à la recherche de Ferdinand, mais bien convaincu qu'ils ne le reverront plus. Pas un homme de l'équipage n'a péri, et cependant chacun d'eux se croit le seul échappé au naufrage. Le vaisseau, invisible pour eux tous, est en sûreté dans le port. C'est parfait, mon ami, mais il te reste encore quelque chose à faire. Est-il possible, moi qui, d'après votre promesse, m'attendais à ma liberté? Je vous ai toujours fidèlement servi. Jamais je ne vous ai menti. Jamais je n'ai fait de faute. Jamais je n'ai murmuré contre vos ordres. Ah, le petit ingrat, dit en riant Prospero. As-tu donc oublié la vieille Sycorax, que l'âge et la jalousie avaient presque plié en deux? Dis-moi, où était-elle née? À Alger, maître. Vraiment? Eh bien, cette mégère, à cause de ses sorcelleries, trop horribles pour que je te les raconte, avait été chassée d'Alger et abandonnée ici par des matelots. Or, parce que tu étais trop délicat pour exécuter ces ordres abominables, elle t'avait enfermé dans un arbre où je t'ai trouvé poussant des cris de possédé. Qui t'a délivré? Moi. Ariel fut tout honteux d'avoir paru oublier cette généreuse action du vieillard. « Je suis à vos ordres, maître bien-aimé, s'écria-t-il. À la bonne heure, dit Prospero, et tu ne perdras rien pour attendre, mon petit Ariel. » En un clin d'œil, le sylphe fut auprès de Ferdinand, qu'il trouva assis à la même place, plongé dans une navrante mélancolie. « Allons, mon joli prince, lui dit-il, il faut me suivre. Une belle demoiselle demande de te voir. » Et tout en voltant dans la direction de la caverne, le gnome se mit à chanter. « Sous 30 pieds d'eau gît ton père. Ses os sont devenus corail. Ses perles au brillant émail furent ses yeux, car l'onde amère ne laisse rien perdre de lui, mais par de merveilleux échanges le transforme en être étrange. Et soudain, quand chaque heure a fui, des nymphes de l'abîme sombre, les gais et bruyants bataillons, pour faire honneur à sa grande ombre, sonnent leurs joyeux carillons. » D'aussi bizarres révélations sur le sort de son père étaient bien faites pour réveiller Ferdinand de sa torpide apathie. Profondément troublé, il suivit l'invisible chanteur. Bientôt, il fut aperçu de Miranda et de Prospero, qui étaient assis à l'ombre d'un grand chêne. « Ma fille, dit le vieillard, que regardes-tu donc si attentivement là-bas » « Père, répondit Miranda, je vois venir à nous une délicieuse créature qui semble chercher quelque chose de tous côtés et dont la vue me comble de ravissement. C'est un esprit, sans doute. Non, ma chérie, c'est un être qui mange, dort, voit et entend comme toi et moi. Ce jeune homme était sur le vaisseau naufragé. Le chagrin a légèrement altéré ses traits. À part cela, tu as raison de le trouver beau. Il a perdu ses compagnons, et c'est eux qu'il cherche, sans doute. Miranda, qui se figurait que tous les hommes avaient, comme son père, grave visage et barbe grise, ne revenait pas de son ébahissement. De son côté, Ferdinand, qui depuis quelques heures marchait de merveille en merveille, et à qui la voix d'Ariel, qu'il entendait toujours, faisait croire qu'il se trouvait dans une île enchantée, n'eut pas plutôt aperçu l'éblouissante Miranda qu'il la prit pour la déesse d'Océan et la salua comme telle. « Je ne suis pas une déesse, » lui dit simplement la jeune fille. « Je suis. » Mais Prospero l'interrompit. Il était heureux de les voir ainsi s'admirer l'un l'autre et s'éprendre à première vue. Mais pour éprouver Ferdinand, il résolut de jeter quelques bâtons dans les roues de son amour. Il s'avança donc vers le jeune homme, les sourcils froncés, et l'accusa d'être venu en espion pour lui ravir son île. « Suis-moi, lui cria-t-il, je vais te lier par les pieds et par le cou. Je te ferai boire de l'eau de mer. Tu vivras de crabes, de racines desséchées et de cosses de grains de blé. » « Bien obligé, riposta le prince, mais je n'accepterai pareil menu que d'un ennemi plus redoutable que toi. » Et il mit flamberge au vent. D'un signe de sa baguette, Prospero le cloua au sol et paralysa tous ses mouvements. « Oh, père !» exclama Miranda en se pendant câlinement à son cou. « Père, ne soyez pas si inhumain. Pitié pour lui, je serai sa caution. C'est le second homme que j'ai jamais vu et il me paraît digne de toute confiance. » « Silence, enfant, dit Prospero. Un mot de plus et je vais te gronder. Comment, tu te fais l'avocate d'un imposteur ? Parce que tu n'as vu jusqu'ici que lui et Caliban, tu te figures qu'il n'y a pas d'autre bel homme au monde ? Il y en a des milliers, petite folle, et qui lui sont aussi supérieurs qu'il l'est à Caliban. » « Père, insista la jeune fille, dont il voulait éprouver le cœur, je l'aime tel qu'il est, et n'en désire point de plus charmant que lui. » « Allons, jeune homme, » dit le vieillard, sans se laisser attendrir. « Tu vois bien qu'il n'est pas en ton pouvoir de me désobéir. Suis-moi donc de bonne grâce. » Le prince ignorait qu'il fût en présence d'un magicien et s'étonnait de se sentir ainsi dompté. En dépit qu'il en eût, une force invisible le détacha du sol et il lui fallut suivre Prospero. Tant qu'il put apercevoir la forme divine de Miranda, il regarda derrière lui tout en marchant. Mais quand il fut enfin dans la caverne, il lui sembla que la vie allait l'abandonner. Toute son énergie avait disparu comme dans un rêve. Si seulement, se disait-il, je pouvais une fois le jour reposer mes regards sur cette adorable fille, ma prison serait encore un paradis. Prospero ne le tint pas longtemps sous les verrous. Il le chargea de mettre en tas de lourdes pièces de bois. Fils de roi sont en général peu familier avec ce genre d'exercice. Aussi Ferdinand fut-il bientôt brisé de fatigue. Pendant ce temps, le vieillard s'était soi-disant enfermé avec ses livres, non sans avoir fait savoir à sa fille à quelle rude tâche il avait condamné le jeune prince. En réalité, il surveillait de près les deux amoureux. « Beau jeune homme, » disait Miranda, qui n'avait pas tardé à venir rejoindre Ferdinand, « ne travaillez pas ainsi. Mon père est avec ses livres au moins pour 3 heures. » Vous pouvez donc vous reposer. « Je ne l'ose, » soupira le prince. « Il faut tout d'abord, belle dame, que je finisse ma tâche. Asseyez-vous tout au moins, et pendant que vous reprendrez vos forces, je travaillerai à votre place. » Ferdinand était trop galant cavalier pour accepter une telle offre. Loin donc d'avancer la besogne, la présence de Miranda ne fit que la retarder. On empila guère de bois, mais en revanche, on causa beaucoup. Et Prospero, invisible à leurs yeux, mais debout à leur côté, les écoutait avidement. « Comment vous appelez-vous » disait le prince. « Mon père m'a défendu de le dire à personne, mais je m'appelle Miranda. » Prospero sourit dans sa barbe à cette première désobéissance de son enfant. C'était par ses enchantements qu'elle s'était si subitement éprise du noble étranger. Il ne pouvait donc raisonnablement trouver mauvais qu'elle oubliât ses ordres en faveur de son amoureux. Celui-ci, d'ailleurs, se lança dans de si brûlantes protestations de tendresse que le vieillard se félicita de son stratagème. « Oui, s'écriait Ferdinand avec feu, vous êtes la plus belle entre toutes les femmes. »« Je ne sais, répondit modestement Miranda. Je ne me rappelle aucun visage de femme. Je ne connais non plus d'autre visage d'homme que celui de mon père et le vôtre. Mais ce que je sais bien, c'est que je ne désire d'autre compagnie que la vôtre et que je ne peux m'imaginer des traits qui me plaisent plus que les vôtres. Mais je crois bien, monsieur, que je vous parle trop familièrement, et en cela je désobéis encore à mon père. « Parfait, se dit le vieillard en souriant de nouveau. Ma fille sera reine de Naples. » Ferdinand s'embarqua en effet dans une autre tirade plus passionnée encore que la première et finit par déclarer à sa belle qu'il était l'héritier de la couronne de Naples et qu'il la ferait sa reine. « Seigneur, dit naïvement Miranda, dont les yeux se remplissaient de larmes, je suis folle de pleurer de ce qui me rend si heureuse. Voici ma réponse sans le moindre détour. Je suis votre femme si vous voulez me faire l'honneur de m'épouser. » Ferdinand allait se confondre en remerciements quand tout à coup Prospero se rendit visible à leurs yeux. « Ne craignez rien, mes enfants, leur dit-il. J'ai tout entendu et j'approuve tout. Ferdinand, je répare au centuple mon apparente rudesse envers toi en te donnant mon enfant. Je ne voulais qu'éprouver ton amour et tu t'es tiré à merveille de cette épreuve. Prends-la donc, elle est en tout digne de toi. Et maintenant, asseyez-vous et causez jusqu'à mon retour. » Cette fois, Miranda ne montra aucune disposition à désobéir. Prospero ne fut pas plus tôt de retour dans sa caverne que, sur son ordre, Ariel apparut promptement devant lui. « Maître, dit le sylphe, vous voulez savoir ce que j'ai fait de votre frère et du roi de Naples ?»« Oui, mon ami. »« Ah, je les ai terriblement effrayés, ces nobles seigneurs. Quand je les ai vus rompus de fatigue et mourant de faim, j'ai soudainement fait paraître devant eux un succulent banquet, et au moment où ils allaient y faire honneur, j'ai pris la forme d'une hideuse harpie et j'ai tout dévoré. Puis, à leur indescriptible étonnement, ladite harpie s'est mise à leur parler et à leur reprocher leur cruelle conduite envers Prospero et sa fille en bas âge. « Le jour du châtiment est venu, leur disait-elle. Tremblez, vous qui n'avez pas reculé devant la trahison et l'assassinat. Ah, si vous les aviez vus! Leur repentir était si poignant que, tout farfadé que je suis, je m'en sens encore tout remué de pitié. Va les chercher alors, mon bon Ariel. Il ne sera pas dit que je serai moins compatissant qu'un sylphe envers mes semblables. » Bientôt arrivèrent, en effet, le roi Antonio et le brave seigneur Gonzalo, à qui Prospero avait dû, 12 ans auparavant, son salut et celui de son enfant. Ardial avait attiré leur attention en remplissant l'air d'une musique sauvage, et les avait amenés ainsi, en présence de son maître, qu'aucun d'eux ne reconnut, tant la frayeur paralysait leurs sens. Le vieillard se nomma tout d'abord au vieux Gonzalo, qu'il appela son sauveur. Alors les yeux d'Antonio et ceux du roi s'ouvrirent à la vérité. Éperdus et la voix brisée par les sanglots, ils demandèrent un pardon que Prospero ne leur fit pas attendre, et s'engagèrent aussitôt à le rétablir dans son duché. « Moi, dit Prospero au roi de Naples, j'ai en réserve pour vous un présent bien plus précieux. » Et, ouvrant une porte, il lui montra Ferdinand jouant aux échecs avec Miranda. Il faut renoncer à dépeindre la joie folle de ce père et de ce fils, se retrouvant si inopinément, alors que chacun croyait l'autre au fond de la mer. « Oh, merveille !» s'écria Miranda. « Quelles nobles créatures sont celles-ci ! Le monde doit être bien beau s'il renferme d'aussi brillants seigneurs. » Le roi ne fut pas moins ébahi que ne l'avait été son fils de la beauté et des grâces sans pareilles de la jeune fille. « Quelle est donc cette admirable jouvencelle ? Dit-il. « Est-ce la déesse qui nous a séparés pour nous réunir à nouveau ?»« Non, sire, répliqua Ferdinand, qui ne put s'empêcher de sourire en entendant son père tombé dans la même erreur que lui-même. C'est une mortelle que l'immortelle Providence a fait mienne. Pardonnez, si vous croyez en mort, je l'ai choisie sans votre consentement. » Elle est la fille de ce fameux duc de Milan dont la renommée avait tant de fois frappé mes oreilles. Je dois à l'illustre Prospero une vie nouvelle, puisqu'il m'accorde cette délicieuse fiancée. « Et moi, dit le roi, j'ai un enfant de plus, et chose singulière, mon premier devoir est d'implorer son pardon. » « Trêve de tout cela, intervint Prospero. Oublions le passé, puisque si bien le ciel l'a heureusement réparé. » Et il embrassa tendrement son frère. « Une sage et toute-puissante providence, ajouta-t-il, a permis que je fusse chassé de mon pauvre duché de Milan pour que ma fille héritât de la riche couronne de Naples. Car sans cette rencontre sur cette île déserte, jamais le fils du roi n'eût épousé ma Miranda. » Antonio et le vieux Gonzalo pleuraient à chaudes larmes. Celui-ci de bonheur, celui-là de repentir. « Votre vaisseau est en sûreté dans le port, ajouta Prospero, ainsi que tous vos matelots. Ma fille et moi, nous partirons avec vous demain. En attendant, resterons-nous aussi bien que le permettront nos pauvres ressources. » Et il appela Caliban, à qui il ordonna de préparer quelque nourriture et de mettre tout en ordre dans la caverne. Grande fut la stupéfaction du roi et de ses compagnons à la vue du monstre qui servait Prospero. Avant de quitter son île, le vieillard appela Ariel. « Mon gentil petit gnome, lui dit-il, je te rends, dès aujourd'hui, toute ta liberté. » Ariel ne se contint plus de joie. « Soyez béni, mon cher maître, s'écria-t-il. Mais auparavant, je veux m'assurer que des vents favorables enfleront vos voiles. Et alors, quelle joie d'être libre, et comme je vais vivre heureux !» Et il chanta cette gracieuse ariette. « Où butine la gente abeille, moi je butine, et si j'entends le hibou crier, je m'éveille dans la campanule vermeille d'une primevère à cinq dents. Sur le dos d'un chéiroptère, gaiement je cours après l'été, et libre enfin, dans main par terre, je vais, le cœur plein de gaieté, vivre sous l'ombre tutélaire de la fleur d'un arbre enchanté. » Prospero enfouit alors profondément dans le sol ses livres et sa puissante baguette. Il n'en avait à jamais fini avec les sciences occultes. Ses ennemis étaient domptés, et il était réconcilié avec son frère. Pour mettre le comble à sa félicité, il ne lui restait plus qu'à revoir sa terre natale, à reprendre possession de son duché, et à assister au mariage de sa bien-aimée fille. Le fidèle Ariel conduisit heureusement le vaisseau jusque dans la magnifique baie de Naples, où tous ses protégés débarquèrent sains et saufs. Et ce délicieux voyage fut immédiatement suivi des noces splendides de Ferdinand et de Miranda.